Bonjour Marc Fesneau.
Bonjour.
Ministre chargé des relations avec le Parlement, membre du Modem. Marc Fesneau, Nicolas Hulot écrit aux députés, il leur demande de voter contre le traité commercial Canada-Union Européenne, le CETA. C'est France Info qui révèle le contenu de cette lettre. Ayez le courage de dire non, dit Nicolas Hulot. Il a raison, l'ancien ministre de l'Environnement, de s'adresser ainsi à la majorité.
Il me semble qu'il y a le courage de dire, puis il y a le courage de faire aussi. Et je ne partage pas le point de vue de Nicolas Hulot. Au fond, d'ailleurs, il prolonge ce qu'il avait dit il y a quelques semaines, qui était de finalement dénoncer l'ensemble des traités internationaux de commerce en disant que finalement l'ensemble de ces traités portaient atteinte à l'objectif que nous partageons tous, qui est celui de lutter contre le dérèglement climatique. Or, il me semble qu'au travers de cet accord, ça n'est pas le cas de tous. On se donne pour la première fois les moyens, dans un accord international, en particulier en ce cas avec le CETA, avec le Canada, de faire en sorte de faire évoluer le modèle économique du pays avec lequel on décide de commercer. Prenons l'inverse. Si nous n'avions pas d'accord avec le Canada, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de filière bovine dédiée sans antibiotiques, sans produits qui sont interdits en Europe, qui se construiraient au Canada. Ça voudrait dire que le Canada continuerait quand même à commercer avec les États-Unis et le Brésil. Et ça veut dire que le Canada ne rentrerait pas dans la logique qui est celle de respecter les accords de Paris. Et donc, là où je ne partage pas du tout le point de vue, je pense que les outils du commerce international, ils doivent être transformés. C'est une première étape avec le CETA pour faire en sorte qu'ils respectent les objectifs mondiaux qu'on peut se fixer en termes de dérèglement climatique. Au fond, les Allemands, ils respectent pas non plus aujourd'hui les accords de Paris puisqu'ils sont
au charbon.
Et qu'est-ce qu'on fait? On arrête de commercer avec les Allemands. Donc moi, je préfère qu'on essaye de faire évoluer les modèles au travers du commerce plutôt que d'être à regarder les choses et à dire on ne commerce pas. Par ailleurs, la France, d'un point de vue assez solitaire d'ailleurs, a refusé d'engager les négociations avec les États-Unis en termes de commerce parce que justement les États-Unis ont décidé de sortir de l'accord de Paris. Mais donc il faut aussi entendre raison, et c'est pas juste une question de raison, c'est une question pragmatique et pratique, et le gouvernement est à l'œuvre là-dessus.
Mais Marc Fesneau, Nicolas Hulot explique que quand il était ministre, il n'a pas réussi à obtenir les garanties nécessaires sur les OGM et sur les farines animales. Il dénonce aussi, je le cite, l'influence des géants de la chimie comme BASF ou Bayer Monsanto dans les ministères. Il parle pas de nulle part, Nicolas Hulot.
Non, il parle pas de nulle part, mais je ne partage pas ce point de vue-là. Moi, j'ai été parlementaire, je sais ce que peut être le poids des lobbies, et en même temps, la capacité qu'ont les politiques de s'en abstraire. Et je pense qu'il faut pas nourrir à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, une espèce de sentiment que tout serait sous la contrainte ou sous la force des lobbies. On a décidé en France de sortir plus rapidement que la plupart des pays européens, et même tout court, du glyphosate. C'était donc contre la contrainte éventuelle des lobbies. Ce que je regrette, c'est qu'on ne soit jamais capable en France de regarder ce que sont les avancées que nous avons portées. Nous avons porté, c'était avec Nicolas Hulot, ce que je regrette, c'est qu'il ait renoncé d'une certaine façon à agir. Nous avons porté la sortie du glyphosate en 3 ans, nous avons porté la fin des centrales à charbon, nous avons porté la fin de l'exploitation des hydrocarbures. Ça, c'est des faits concrets. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est les faits concrets et pas ce qu'on dit et ce qu'on peut raconter dans des tribunes.
Deux enquêtes internes semblent disculper François Rugy de dépenses exagérées pour des dîners professionnels et pour des travaux dans son appartement au ministère. Si c'est le cas, pourquoi n'a-t-il pas attendu les résultats de cette enquête au lieu de démissionner?
Mais je crois que c'était sa décision personnelle, et reconnaissons que depuis 10 jours, il était sous une pression médiatique assez forte et qu'il a pensé que cette pression médiatique pouvait entraver l'action qu'il entendait mener au sein du gouvernement dans le périmètre important dont on vient de parler, qui est le périmètre de la transition écologique. Et donc c'est une décision sur laquelle il a beaucoup échangé avec le président de la République et le Premier ministre. C'est une décision courageuse, parce que c'est une décision qui était une décision avec l'idée de ce que ça pouvait aider le collectif.
Et donc c'est pour ce motif-là. Il voulait pas ralentir le gouvernement en quelque sorte.
Non, mais voyez bien, quand vous êtes dans ces situations-là, quand ce déferlement arrive, vous êtes dans l'incapacité même tout simplement parfois de vous déplacer, parce qu'à chaque fois vous êtes sous la contrainte ou des questions qui vous sont posées, ou sous la contrainte de la population qui parfois est assez véhémente sur ces sujets-là. Et donc il a préféré à la fois laisser continuer les inspections qui avaient lieu, et on aura les résultats dans la semaine, et par ailleurs pouvoir libérer le gouvernement d'une certaine façon de cette contrainte et qui faisait peser sur sa propre action.
Ça voudrait...
En fait, il l'a fait au service général, cette affaire-là.
Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait revenir s'il était, je mets des guillemets bien sûr, blanchi?
J'en sais rien, c'est à lui qu'il faudra poser la question. François de Rugy a 46 ans, il a une carrière déjà importante d'engagement au service de l'écologie. Je suis sûr qu'il trouvera les voies et moyens de toute façon de faire entendre sa voix, on verra sous quelle voie et moyens. Oui. Laissons, là aussi, le temps médiatique n'est pas le temps des inspections, laissons faire les inspections et on verra les enquêtes internes et après on discutera de tout ça.
C'est des enquêtes internes, ça veut dire que l'enquête sur les dîners à l'Assemblée nationale sont menées par l'Assemblée nationale et celles sur les travaux de l'appartement ministériel sont menées par les services du gouvernement. Ça reste toujours des contrôles internes, il n'y a pas de contrôle extérieur comme n'importe quelle dépense dans les entreprises.
Mais dans la plupart des entreprises, vous regarderez d'ailleurs, il y a d'abord des contrôles internes. La plupart des entreprises sont dotées de contrôles internes.
Ça commence par là, mais
ça commence par là, et si on voit qu'il y a des choses, après on élargit le champ. Donc laissons faire, si vous faites la comparaison avec les entreprises, dans la plupart des entreprises, il y a des audits et des contrôles internes. C'est des corps d'inspection particuliers qui regardent.
Et ensuite, c'est à disposition.
À disposition, et s'il y a besoin, et s'il y a des choses qui nécessitent des compléments d'information ou des compléments d'inspection, ils sont faits à l'extérieur. Et je trouve que c'est une bonne chose que ça soit fait comme ça.
Mais pour l'utilisation d'argent public dans le cadre d'institutions nationales, il vaudrait mieux pas directement que ce soit une enquête.
Mais vous remarquerez que sur les sujets qui ont été évoqués, personne n'a jamais évoqué que les dépenses qui avaient été affectées soient contraires à la loi.
Et donc, absolument pas. Non.
Donc c'est à ce moment-là qu'éventuellement la justice pourrait être saisie. Mais à ce stade et pour l'instant, manifestement, ce n'est pas le cas.
Marc Fesneau, la loi bioéthique sera présentée mercredi en Conseil des ministres. Il y a beaucoup de projets. Ça concerne le don d'organes. Ça concerne aussi la PMA pour toutes les femmes. Ça veut dire femmes en couple ou célibataires. Vous êtes membre du MoDem, on va dire, qui est l'héritier de la démocratie chrétienne, bien implantée dans l'Ouest. Est-ce que vos députés, qui pourraient être sensibles à cette question, voteront pour ce projet de loi? Est-ce qu'ils auront liberté de vote?
Alors d'abord, Frédéric Mettezo, vous avez raison de rappeler que ce texte, il comporte des tas de sujets, pas seulement la question de la PMA pour toutes, et que donc c'est un débat nourri qui sera celui de l'Assemblée nationale. De première chose, c'est qu'il faut laisser faire le débat et que chacun puisse exprimer ce qu'il pense en conscience du texte qui sera présenté. Attendons que le texte soit présenté, attendons que le débat ait lieu. Et par ailleurs, pour répondre à votre deuxième question, bien évidemment dans ce groupe, parce que c'est la philosophie du groupe et de ce que nous portons, la liberté de vote sera admise. Mais je crois que l'essentiel du groupe votera ce texte bioéthique. Laissons faire les débats, mais en tout cas que la majorité du groupe votera ce texte bioéthique parce qu'il est conforme d'abord aux engagements que nous avions pris et conforme à la philosophie que nous portons.
On l'a dit, vous appartenez au MoDem, c'est le deuxième pilier de la majorité. C'est facile d'être le partenaire de La République En Marche, qui a une énorme majorité, qui est un parti, on va dire, assez dominant, tout de même assez vertical. Vous n'avez pas la même culture politique du tout.
Mais quand vous êtes sur vos convictions, et vos convictions depuis un certain nombre d'années autour de François Bayrou, reconnaissons que nous avons une forme de continuité dans ce que nous avons porté depuis la création du MoDem, et finalement même avant la création du MoDem, quand c'était encore l'UDF, c'est assez facile de pouvoir exprimer et d'être ce qu'on est quand on a une pensée politique et une histoire assez longue. Moi, je vois pas de difficulté particulière. Après, quand vous êtes un grand groupe ou un grand parti avec un autre qui est plus modeste en taille, évidemment, il y a toujours une tentation, et je me dis toujours que si j'étais dans la même situation, il y aurait cette tentation-là. Mais à nous de faire entendre à la fois notre voix et ce qui est notre spécificité, et la voix dans le cadre d'un partenariat que je crois solide.
Parce qu'ils sont pas toujours très gentils, les camarades d'En Marche.
Oh, c'est pas une question de gentillesse.
Ils veulent investir, par exemple, des candidats aux municipales contre des maires sortants qui dirigent avec le MoDem. C'est le cas à Bordeaux. Il y a même failli avoir une liste République En Marche à Pau chez François Bayrou.
Je crois que le deuxième point était assez anecdotique et que c'était contre les instances nationales. C'est assez symbolique
Bordeaux,
aussi.
Bordeaux, par exemple.
Moi, je pense que c'est la volonté qui est la nôtre, c'est pas contre nous en tant que tel, la question bordelaise. C'est la question d'avoir un maire sortant. La question, c'est d'avoir un maire sortant dont il nous semble que le bilan est bon, même si c'est pour l'essentiel le bilan d'Alain Juppé. Et par ailleurs, qu'il a fait des signes qui montraient plutôt la volonté de travailler avec le gouvernement. Et donc, nous sommes, avec d'autres, y compris à La République En Marche, les garants du fait que cette majorité doit continuer de s'élargir et d'ouvrir ses bras à ceux qui ont envie de travailler localement dans la même philosophie que celle qui a été portée en 2017, c'est-à-dire de ne pas se cantonner au droit de gauche, mais au dépassement du droit de gauche. Et c'est ça, et c'est à cette ligne-là qu'on essaiera de se tenir, pour notre part.
Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, merci d'être venu ce matin sur France Inter. Il est 8h05.